podcast.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse-Jean Jaurès qui vous propose de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et nous allons passer ensemble 12 minutes en tête à tête avec une ou un chercheur. Et le sujet du jour parle d'un outil d'apprentissage que certains étudiants d'ailleurs connaissent bien, c'est le mapping concept. Et j'accueille pour cela Franck Amadieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie cognitive et ergonomie à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, chercheur évidemment, spécialiste des apprentissages avec les outils numériques au sein du laboratoire Cognition Langue, Langage et Ergonomie, le CLE, que vous dirigez également. Première question, Franck Amadieu, le mapping concept. Pour celles et ceux qui ne voient pas bien ce que c'est, est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
Alors non, on va peut-être parler de concept mapping, non ? Ou on va parler de mind mapping, ou on va parler de carte conceptuelle. Oh, voilà, il y a une terminologie assez variée par rapport à ça. En gros, c'est l'idée qu'on va, à partir d'un contenu ou d'un ensemble de contenus, élaborer une carte, c'est-à-dire une représentation un peu graphique des principaux concepts du cours, ou des principales idées du cours. Et on va essayer de les relier, de les connecter les unes aux autres pour voir un peu quelles sont leurs interdépendances, leurs relations causales, par exemple. Et donc l'idée, c'est de pousser l'apprenant, finalement, à être actif dans son apprentissage en explorant les contenus, en extrayant l'information jugée la plus importante, la plus pertinente, et en essayant de connecter les informations entre elles pour mieux les mémoriser, pour mieux apprendre. Ça, c'est le principe.
Ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus dans l'apprentissage par rapport à, je sais pas, une simple prise de notes, par exemple?
Alors, l'idée, justement, ici, c'est de pousser à un apprentissage qu'on dit actif. Alors, évidemment, on est toujours actif, même quand on lit, on est actif, c'est pas de l'apprentissage passif, mais on est un peu plus actif quand on va pousser plus loin l'extraction de l'information, l'identification de l'information pertinente et non pertinente, et on va devoir faire des choix et on va devoir élaborer par soi-même. Donc l'idée ici, c'est d'avoir une activité d'apprentissage qui pousse l'apprenant à élaborer par soi-même. Élaborer par soi-même, généralement, ça va renforcer les traces en mémoire, parce que vous mobilisez, par exemple, davantage vos propres connaissances pour faire des choix, des interprétations. Si je ne fais pas appel à vos connaissances, je réduis les chances que vous utilisiez efficacement les contenus ou que vous les mémorisiez efficacement. Donc, l'idée du mind mapping, c'est vraiment une incitation à être plus en profondeur dans son propre apprentissage.
C'est ça que vous analysez, vous, en tant que chercheur, ce que ça génère sur l'apprentissage en termes de cognition ?
Exactement. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est qu'on va prendre des étudiants ou des élèves. D'ailleurs, on a travaillé aussi avec des élèves de primaire, des élèves de collège, des élèves de lycée sur ces questions. On va leur demander, par exemple, d'élaborer une carte à partir d'un ensemble de contenus ou de compléter une carte. Parfois, il y a une carte qui est préfaite, mais elle n'est pas complète, donc il faut la compléter. Et on va voir si, dans ces situations-là, on va mieux mémoriser, mieux comprendre. Donc, on a des petites mesures, des petits tests, des questions, après, qui nous permettent d'évaluer ce que l'élève a vraiment compris. Et on va comparer à des situations où, justement, l'élève, on ne lui demande pas d'élaborer par lui-même. Donc, généralement, on va lui proposer une carte qui est toute faite, par exemple. Ou alors, dans une autre situation, on lui propose juste des documents classiques. Il n'y a pas de carte, il n'a pas élaboré de carte. Et on va voir si finalement, quand on lui avait demandé d'élaborer une carte, on a amélioré sa mémorisation et sa compréhension du cours.
Et alors ?
Et alors, dans la littérature, évidemment, c'est toujours plus complexe.
c'est jamais fait, noir ou blanc.
Voilà, vous avez des travaux qui vont montrer que ça fonctionne.
Ouais.
Et d'autres travaux qui vont vous montrer que ça ne fonctionne pas. Voire même que ça interfère, c'est-à-dire qu'on a même des résultats, et nous on l'a obtenu dans des projets dans le laboratoire, notamment une ANR qui était conduite là-dessus, on a montré que finalement, quand on compare une situation où l'étudiant consulte une carte qui est déjà proposée par l'enseignant, avec les documents associés bien sûr, quand on compare cette situation à un étudiant qui est avec les mêmes documents, mais c'est à lui d'élaborer la carte, on s'aperçoit déjà premièrement que l'étudiant passe plus de temps à apprendre quand il doit élaborer la carte. C'est normal, puisqu'il a cette tâche d'élaboration qui prend du temps. Ça, c'est le premier constat. Donc déjà, on prend plus de temps. Et quand on regarde le résultat final, non seulement on n'a pas forcément de meilleures performances, et même parfois, on a des moins bonnes performances. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut avoir des compétences et les ressources nécessaires pour faire du mind mapping efficacement. Et c'est un peu ça l'idée de fond, c'est-à-dire que quelqu'un qui démarre dans un domaine, qui ne connaît pas bien ce domaine-là, L'avantage, c'est quand on lui donne en gros une carte déjà prête. En gros, il faut lui mâcher le travail. Je reprends le terme des enseignants qui me disent des fois, mais vous voulez qu'on mâche le travail des étudiants ? Oui, il faut mâcher le travail des étudiants. C'est-à-dire leur proposer une carte, un guide, une représentation de la structure des contenus du cours qui les aide ensuite à traiter les contenus et à les mémoriser au fur et à mesure et à les organiser mentalement. Plus vous organisez mentalement l'information, plus c'est facile de la mémoriser. Quand vous poussez quelqu'un à faire du mind mapping et qu'il n'a pas encore les connaissances, il faut qu'il arrive à interpréter le contenu du cours. Or, c'est pas facile, puisqu'il manque de connaissances encore. Et quand on manque de connaissances, c'est difficile de faire les bons choix. Quelle était l'information importante, quelle était l'information moins importante, et quelles sont les relations entre les informations.
C'est ce que j'allais vous dire, le résultat, il peut être complètement biaisé, en fait, par tout un tas de choses.
Oui, et on s'aperçoit que les étudiants qui sont dans cette tâche de créer des cartes par eux-mêmes, dans des situations expérimentales qu'on contrôle bien, c'est que, en fait, leur tâche, ce n'est plus d'apprendre, c'est de créer une carte. Et donc, ils vont rechercher des indices de surface dans les contenus, dans les textes, en disant, tiens, il y a une phrase, elle a l'air importante parce qu'elle est placée à tel endroit, ou elle revient plusieurs fois, tiens, ça doit être important, je le note. Et après, tiens, ils disent que ça provoque autre chose. Je vais noter sur ma carte que ça provoque autre chose. Mais est-ce que j'apprends vraiment ? Je recherche des indices qui me permettent de construire la carte. Mais au fond, est-ce que je traite en profondeur le contenu du cours ? Pas forcément.
Ouais, c'est ça. Donc, on s'attache dans ce cas-là plus à la forme qu'au fond.
Exactement.
Ouais.
C'est vraiment ça.
C'est dans ce sens-là que vos analyses montrent, en tout cas cherchent à démontrer que ce concept de mapping n'est pas forcément un outil d'apprentissage.
C'est pas la solution miracle.
Voilà. C'est le mot que je cherchais.
Les solutions miracles n'existent pas en pédagogie.
Ouais.
Sinon, on le saurait, sinon on arrêterait de faire des recherches. On sait qu'on a des outils, des activités qui nous permettent d'améliorer certaines activités d'apprentissage, certaines performances d'apprentissage, mais c'est souvent conditionné par à qui on s'adresse, quel est le profil de l'étudiant, dans quel cadre, quel est l'objectif de cette carte. Donc je peux vous donner après le pendant inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelques travaux qui montrent que ça peut être pertinent. Et c'est pertinent quand vous donnez la méthode de travail à l'étudiant. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un de faire une carte, il n'est pas évident de savoir par quoi commencer. Qu'est-ce que je fais d'abord ? Est-ce que je commence par identifier des concepts ? Est-ce que je les mets tout de suite en relation ? Est-ce que je fais deux par deux ? Est-ce que je mets tout à plat, puis après je réorganise ? En fait, ça demande une méthode. Et on s'est aperçu que quand on guidait les étudiants dans une méthode particulière, par exemple, vous lisez deux fois les textes et vous extrayez vraiment les informations que vous jugez importantes, mais de manière indépendante les unes des autres, après vous allez commencer à chercher des connexions entre ces informations. Donc vous commencez à les relier. Une fois que vous avez fait votre carte, vous allez revoir toute votre carte et vous essayez de la réévaluer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je devrais corriger ? Et ce travail de réévaluation de la carte, de correction, il est fondamental. Et on avait montré dans des études que ceux qui faisaient ça, les étudiants qui faisaient cet effort de réévaluation de la carte qu'ils avaient produite, étaient ceux qui apprenaient le mieux. Donc ce qui est intéressant, c'est de donner aussi les méthodes de travail avec les cartes. Mind mapping, en gros, ce n'est pas la solution. Et comme on travaille beaucoup sur le numérique, c'est comme le numérique, c'est pas la solution non plus, parce que je travaille sur le numérique va pas résoudre mes problèmes d'apprentissage. La question, c'est comment j'accompagne l'apprenant dans ses activités d'apprentissage pour qu'il puisse tirer parti justement de ses outils, instruments, activités qu'on
met
en place.
Oui, c'est ça, faut savoir utiliser l'outil, avoir la notice.
Alors, je dirais la notice méthodologique,
ouais.
et pédagogique, pas la notice en termes techniques.
Ouais.
Là, si je reviens sur le numérique une seconde, apprendre à un élève quelles sont les fonctionnalités de l'outil, comment on enregistre le fichier, etc., pour moi, ça n'a aucune utilité. Ça devrait même être suffisamment ergonomique et transparent pour que l'étudiant n'ait pas trop à chercher.
Que ça soit intuitif, quoi.
Exactement. Ouais. En revanche, il faut l'accompagner sur comment j'utilise cet outil pour apprendre efficacement. Donc, c'est plus la question de la méthode que de la technique d'utilisation.
Le mapping, c'est très développé, justement, comme outil, dans l'enseignement, j'entends.
Alors, je n'ai pas de chiffres spécifiques là-dessus, mais quand on travaille avec les enseignants dans le secondaire, c'est pas mal utilisé, c'est pas mal à la mode, on va dire. Du point de vue de la recherche, il y a pas mal de travaux aussi sur ces questions-là. Il y a des groupes qui se sont organisés autour de ça. Donc, il y a beaucoup de soutien pour ce type d'activité qui fait partie un peu des activités qui ont été repérées aussi comme relevant de l'apprentissage actif dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a d'autres activités qui permettent ça. On pousse l'étudiant à être actif, à rentrer plus en profondeur. Donc ça, c'est très intéressant. Mais les gens ont tendance, parfois les enseignants ont tendance à espérer avoir la solution toute faite, justement, en disant si je fais faire ça à mes élèves, forcément ça va les aider. Et on s'aperçoit que ça peut en aider certains et moins d'autres, et qu'en fait les élèves, il faut beaucoup les accompagner si on leur fait pratiquer ces activités-là.
Et est-ce que c'est un outil qui peut aussi créer des crispations chez certains enseignants? Parce que précisément, pour tout ce que vous nous avez expliqué, ce n'est pas forcément l'outil miracle, donc peut-être que certains n'y croient pas ou n'adhèrent pas à ce genre de méthode.
Ah oui, certainement. Alors chez les enseignants, et c'est bien normal, vous avez une variabilité de point de vue, de pratique pédagogique, et il n'y a pas une façon d'enseigner. Et donc vous avez des enseignants qui vont juger cet outil très intéressant et qui l'adaptent aussi à leurs besoins pédagogiques, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a étudié des choses très spécifiques avec cet outil, mais on peut l'utiliser autrement, dans des situations différentes. Par exemple, ça peut être intéressant, pour moi, cet outil, quand vous êtes face à des informations complexes, un peu contradictoires, ou qui sont mal organisées, et à un moment, vous poussez un peu l'élève à faire cet effort d'organisation, mais en l'accompagnant toujours, je pense que ça peut être intéressant. En revanche, pousser un élève à faire cette organisation, alors que le cours est déjà bien structuré et tout, je ne vois pas l'intérêt. Là, on va être dans des apprentissages de surface. Donc, il y a des enseignants qui adaptent aussi en fonction des besoins de leur pratique pédagogique, et d'autres qui jugent certainement cette activité pas intéressante ou pas suffisamment intéressante, voire même chronophage. Comme je vous disais, ça prend plus de temps.
En tous les cas, ce mapping concept, ou comment vous m'avez dit tout à l'heure ?
Concept mapping.
Concept mapping, je le mets dans le bon ordre. Vous travaillez évidemment dessus, et vous travaillez même en ce moment sur un gros projet de recherche avec 3 académies, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors, on n'est pas sur le concept mapping, là, on est plus sur l'esprit critique des élèves face aux vidéos devant YouTube, par exemple, ces plateformes. Et là, on les entraîne, on les guide. Alors, fondamentalement, c'est un peu la même idée, hein, c'est que si on laisse seuls des élèves sans accompagnement méthodologique face à des outils, plateformes YouTube ou autres réseaux, on s'aperçoit que les élèves ont du mal à développer, à mettre en œuvre leur esprit critique véritablement, alors qu'ils ont des compétences pour le faire. On voit bien qu'ils sont conscients de certaines choses, mais quand ils sont face aux vidéos, ils peuvent être assez influençables, on va dire. Et donc, on a mis en place des outils de guidage où on a ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des petites incitations qui apparaissent durant les vidéos, des petites questions, qui poussent l'élève à se questionner sur des choses sur lesquelles il ne se serait pas questionné spontanément. Et on s'est aperçu que ça a amélioré un petit peu, justement, la prise en compte des sources d'information. Tout d'un coup, l'élève fait plus attention à qui parle. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne est légitime par rapport au discours tenu? Et du coup, l'élève lui-même révise un peu le poids qu'il accorde à certains arguments qui sont donnés. Donc voilà, on travaille sur ces questions en ce moment.
Franck Amadieu, est-ce que vous auriez une référence justement à conseiller à celles et ceux qui nous écoutent sur ce sujet du mapping?
Oui, donc je pense qu'on a un petit ouvrage qu'on avait écrit avec André Tricot qui a été réactualisé justement avec les dernières références scientifiques, donc qui est vraiment accessible et qui s'adresse principalement aux enseignants, mais qui peut être utile aussi, je pense, pour des étudiants. C'est vraiment Apprendre avec le numérique, donc Mythe et réalité, qui est un petit bouquin facile d'accès et de lecture, je pense.
Un très grand merci, Franck Amadieu, d'être venu au micro de On Air. On Air, qui est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'image et du numérique de l'UT2J, à la réalisation Cédric Perronnet du pôle production Le Vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'Université. Et vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J ainsi que sur les plateformes numériques. On Air.